Les astéroïdes. Entre Mars et Jupiter circulent plus de 4000 astéroïdes dont certains s'approchent de l'orbite terrestre ou la croisent. Les astéroïdes géocroiseurs. Baptisés Near Earth Asteroids en anglais, ils menacent de rentrer en collision avec la Terre. Ce sont soit des fragments d'astéroïdes plus gros éclatés à la suite d'un choc entre eux, soit des résidus de la matière apparue lors de la formation de notre système solaire. Leur taille varie depuis un diamètre heureusement rare de 1000 km, une majorité dont le corps est de dimension supérieure à 1 km, et les plus petits qui mesurent quelques mètres. Ils forment une ceinture et risquent de frapper la Terre. Deux événements historiques précis le prouvent. Il y a 50 000 ans environ, un astéroïde de 60 mètres environ a formé le cratère Barringer en Arizona aux États-Unis, d'un diamètre de 1,5 km, de 200 mètres de profondeur, bordé de falaises de 50 mètres de haut. En 1908, un astéroïde de même taille explose au-dessus de la Tunguska en Sibérie. Il provoque un tremblement de terre de magnitude 5, détruit 2000 km² de forêt. Une secousse est ressentie à Saint-Pétersbourg, à plus de 1000 km de là. Le bruit de l'explosion est entendu à 8000 km de là.
Le saviez-vous? Un choc de titan. C'est entre la fin du Crétacé et les débuts de l'ère tertiaire, il y a 65 millions d'années, qu'un astéroïde de 10 km de diamètre aurait heurté la Terre. Il provoque une explosion gigantesque. Une énorme quantité de poussière est projetée dans l'atmosphère. Le ciel tout entier devient noir. Un volcanisme violent naît. Certaines espèces disparaissent. Les reptiles géants, les dinosaures. La preuve? La présence de l'Italie jusqu'en Nouvelle-Zélande a une dose 160 fois supérieure à la normale d'iridium, un élément de la famille du platine, métal rare sur la Terre dans une couche de sédiments datée de la fin du tertiaire. Or, l'iridium est très abondant dans les astéroïdes, qui deviennent des météorites en franchissant notre atmosphère. La couche retrouvée serait le dépôt, après explosion, de la météorite réduite en poussière par la violence du choc.
En dessous de 50 mètres de diamètre, l'astéroïde a toutes les chances d'être détruit en rentrant dans l'atmosphère. C'est à partir d'un diamètre d'un kilomètre que l'objet atteindrait la Terre. À 2 kilomètres de diamètre, l'explosion produite dégagerait l'énergie d'une bombe d'1 million de mégatonnes. Un corps de 15 kilomètres provoquerait une explosion équivalente à une bombe de 100 millions de mégatonnes. Toute vie disparaîtrait de la surface de la Terre. Rappelons que la bombe larguée sur Hiroshima n'était puissante que de 20 kilotonnes. Heureusement, les fréquences d'impact diminuent avec la taille des astéroïdes. 200 à 300 fois par an pour des corps inférieurs à 10 mètres qui se désintègrent dans l'atmosphère, un impact pour plusieurs millions d'années au-delà. Vents et tempêtes. Espérés, redoutés, les vents rythment la vie des hommes depuis l'aube des temps. Examinons-les du doux à l'effroyable.
Un peu de technique, son et lumière. Un orage est une colonne d'air qui monte brutalement. Air chaud et air froid s'affrontent, provoquant éclairs et tonnerres. Quand l'air froid l'emporte, il stoppe l'ascension de l'air chaud et l'orage cesse. La foudre est une gigantesque décharge électrique entre un nuage et le sol, entre deux nuages ou à l'intérieur du même nuage. Les nuages d'orage accumulent des charges négatives, attirées par les charges positives de la Terre. Lorsque l'accumulation des charges électriques est trop forte, une décharge se produit sous forme d'éclair. L'éclair est la lueur résultant de l'échauffement de l'air traversé par la décharge électrique. Il peut atteindre 30 km de long, se déplacer à plus de 100 000 km par seconde, même si, en moyenne, il circule à 40 000 km par seconde. Il peut apparaître comme terminé par plusieurs langues, mais en réalité, il s'agit de plusieurs éclairs se déplaçant sur un seul canal électrique, mais bien trop vite pour que l'œil parvienne à les différencier. Le tonnerre est le bruit de la dilatation de l'air. Les ondes sonores sont produites par l'expansion et la compression brutale de l'air. La lumière se déplaçant plus vite que le son, 300 000 km par seconde contre 340 mètres par seconde. Quand vous voyez un éclair, chaque seconde qui passe avant d'entendre le tonnerre représente une distance de 300 mètres par rapport à l'endroit où la foudre va frapper.
C'est en 1805 que l'amiral britannique Francis Beaufort propose une échelle qui donne la force du vent pour une hauteur standard de 10 mètres au-dessus d'un terrain plat et découvert. Elle est échelonnée de 0 à 12. Marin, Beaufort conçoit son échelle pour aider les navires à évaluer la force des vents en mer en utilisant pour ce faire la forme des vagues et ses modifications. Par la suite, son échelle est adoptée également pour mesurer la force des vents à terre. 0. Le vent est calme, la fumée s'élève verticalement, quelques rides sur l'eau. 1. Très légère brise. La fumée déviée indique la direction du vent. On distingue des vaguelettes. 2. Légère brise. Le vent est perçu sur le visage. La girouette bouge. Les vaguelettes sont plus serrées. 3. Petite brise. Les feuilles et rameaux s'agitent. Les drapeaux sont déployés. On distingue des moutons sur les vagues. 4. Jolie brise. Les poussières et les papiers sont soulevés. Les rameaux s'agitent. Petite vague sur l'eau. 5. Bonne brise. Les arbustes se balancent, les drapeaux ondulent, les vagues sont de taille moyenne. 6. Vent frais. Les grandes branches s'agitent, les drapeaux claquent, sur l'eau, des lames, des crêtes d'écume. 7. Grand frais. Les arbres sont courbés. La marche contre le vent est pénible. Les lames sont déferlantes. 8. Coup de vent. Les branches cassent. La marche contre le vent est impossible. De grosses lames déferlantes sur l'eau. 9. Fort coup de vent. Légers dégâts. Les cheminées et les ardoises sont arrachées. D'énormes lames déferlantes. La visibilité est réduite par les embruns. 10. Tempête. Les dégâts sont importants. Les arbres sont déracinés. Les lames atteignent 9 mètres de haut. 11. Violente tempête. Très gros ravage. Les lames atteignent plus de 10 mètres de haut. 12. Ouragan. Les effets sont dévastateurs. Les creux peuvent atteindre 14 mètres.
N'oubliez pas, Katrina. Ouragan de classe 5, avec des vents dépassant les 280 km/h, le supercyclone Katrina ravage plusieurs États américains entre le 28 et le 31 août 2005. Mississippi, Alabama, Louisiane et Floride. Il submerge la Nouvelle-Orléans, fait plus de 2000 victimes, des milliers de blessés, près de 80 milliards de dollars de dégâts estimés, contre 30 milliards pour Andrew en 1992. Certes, Katrina a d'une exceptionnelle ampleur, mais avec un rayon de plus de 650 km et un œil large de 40 km. Mais le cyclone le plus meurtrier aux États-Unis reste toutefois celui de Galveston, au Texas, qui provoqua plus de 6000 morts en 1900.
Les éruptions volcaniques. Une éruption volcanique est la remontée de magma, roche en fusion vers la surface à une température proche de 1000 degrés Celsius. Si le magma contient peu de gaz, l'éruption se traduit par des coulées de lave qui descendent le long des pentes du volcan. En revanche, s'il y a beaucoup de gaz, l'éruption est violente, car les gaz se dégagent brutalement et projettent des fragments de roche en fusion. Par convention, les volcans sont classés en 5 types. Le type vulcanien, du nom du volcan Vulcano dans les îles Éoliennes au sud de l'Italie, lave visqueuse et épais panache de cendres. Le type strombolien, du nom du volcan Stromboli, situé sur l'île du même nom, proche de la Sicile, explosion répétée et violente avec projection de débris parfois coulés de lave. Le type péléen, du nom de la montagne Pelée en Martinique, explosions multiples très violentes accompagnées de nuages de cendres brûlantes mêlées de débris en fusion, appelées nuées ardentes. Son éruption en 1902 occasionna près de 30 000 décès. Le type vésuvien, du nom du volcan Vésuve au sud de Naples en Italie. Explosion violente à cratère ouvert. Panache de cendres et de pierres ponces de plusieurs kilomètres de hauteur, qui détruit tout en retombant. Le type hawaïen, du nom des volcans des îles Hawaï, États-Unis. Éruption accompagnée d'une émission de lave très fluide qui dévale les pentes du volcan à grande vitesse.
Le saviez-vous ? À peine étions-nous assis. Pline le jeune, né en 61 et mort en 114, sort de l'adolescence lorsque, avec son oncle, Pline l'Ancien, qui commande la flotte romaine mouillant à Misène, au nord de la baie de Naples, il observe depuis Misène l'éruption du Vésuve et la destruction de Pompéi, le 24 août 79 de notre ère. Tel un reporter, il relate l'événement dans ses lettres. À peine étions-nous assis et voici la nuit, comme on l'a, non point en l'absence de la lune et par temps nuageux, mais bien dans une chambre fermée, toute lumière éteinte. On entendait les gémissements des femmes, les vagissements des bébés, les cris des hommes. Les uns cherchaient de la voix leur père et leur mère, les autres leurs enfants, les autres leurs femmes, tâchaient de les reconnaître à la voix. Certains déploraient leur malheur à eux, d'autres celui des leurs. Il y en avait qui, par frayeur de la mort, appelaient la mort. Beaucoup élevaient les mains vers les dieux. D'autres, plus nombreux, prétendaient que déjà il n'existait plus de Dieu, que cette nuit serait éternelle et la dernière du monde.
Les séismes ou tremblements de terre. Un séisme ou tremblement de terre est produit par les déplacements et les chocs entre les plaques tectoniques de la croûte terrestre. Il s'en produit des milliers tous les jours que nous ne ressentons pas. Pour que ce soit le cas, il faut que l'énergie libérée, sa magnitude, soit au moins égale à l'indice 3 sur l'échelle de Richter. L'échelle de Richter est mise au point par l'Américain Charles Francis Richter en 1935 afin d'estimer l'énergie libérée au foyer d'un tremblement de terre et de pouvoir comparer entre eux les différents séismes en Californie. Appliquée depuis partout dans le monde, elle permet de mesurer l'énergie libérée, la magnitude d'un tremblement de terre en son centre, son origine en surface appelée épicentre. Un séisme de magnitude 5 correspond par exemple à l'énergie libérée par la bombe atomique au moment de son impact sur Hiroshima.
Le saviez-vous ? Voici le dernier jour du monde. Le 1er novembre 1755, un séisme d'une magnitude comprise entre 8,5 et 9 sur l'échelle ouverte de Richter dévaste Lisbonne, provoquant des dizaines de milliers de victimes. Le tremblement de terre est ressenti jusqu'à Hambourg en Allemagne. Il est suivi d'un tsunami qui détruit les ports du golfe de Cadix, avec des vagues hautes de plus de 10 mètres. La vague géante du raz-de-marée qui dévaste la ville est suivie par un incendie gigantesque, ravageant la capitale portugaise pendant 3 jours. Dans Candide, Voltaire relate cet épisode. À peine ont-ils mis le pied dans la ville en pleurant la mort de leur bienfaiteur, qu'ils sentent la terre trembler sous leurs pas. La mer s'élève en bouillonnant dans le port et brise les vaisseaux qui sont à l'ancre. Des tourbillons de flammes et de cendres couvrent les rues et les places publiques. Les maisons s'écroulent, les toits sont renversés sur les fondements, et les fondements se dispersent. 30 000 habitants de tout âge et de tout sexe sont écrasés sous des ruines. « Voici le dernier jour du monde !» s'écriait Candide.
Les raz-de-marée ou tsunami. Le mot tsunami vient du japonais et signifie « vague qui atteint le port ». Il s'agit du déplacement d'une énorme masse d'eau depuis le fond de l'océan en direction des côtes. Ce mouvement se produit lors d'un tremblement de terre sous-marin d'une magnitude égale ou supérieure à 7 sur l'échelle de Richter. Au large, on n'aperçoit rien. la masse d'eau en mouvement se déplace en profondeur à une vitesse qui peut atteindre plus de 600 km/h. Lorsqu'elle vient buter contre la côte et la plateforme continentale, l'eau forme une vague gigantesque, parfois de plusieurs mètres de haut. Elle retombe alors avec violence, détruisant tout sur son passage. Un tsunami peut se propager sur plusieurs milliers de kilomètres. Ce n'est pas tellement la hauteur de la vague ou des vagues qui importe, mais l'importance de la masse d'eau déplacée. Celle-ci permet au tsunami de se déplacer loin à l'intérieur des terres en l'absence de relief pour l'arrêter.
N'oubliez pas, alerte au tsunami. Le 26 décembre 2004, à 0h58, temps universel, 7h58 heure locale, un séisme d'une magnitude 9 sur l'échelle ouverte de Richter se produit dans l'océan Indien, au large de l'île indonésienne de Sumatra. Il provoque un tsunami qui frappe principalement l'Indonésie, le Sri Lanka, le sud de l'Inde, le sud de la Thaïlande, mais aussi traverse l'océan Indien et atteint les côtes africaines de la Somalie et de la Tanzanie. Les vagues successives ont entre 3 mètres et 15 mètres de haut. Selon les Nations Unies, la catastrophe fait 223 492 victimes. 4 autres séismes ont connu une magnitude égale ou supérieure. 9 au Kamtchatka en 1952. 9,1 en Alaska en 1957. 9,2 en Alaska encore en 1964. 9,5 au Chili en 1960.
Les inondations et les crues. Les inondations, responsables de plus de 60% des décès provoqués par les catastrophes naturelles, se définissent comme l'envahissement par l'eau douce ou salée de zones normalement situées au-dessus des eaux. Une crue est l'élévation du niveau d'un cours d'eau au-dessus de son niveau moyen. Elle peut être régulière et bénéfique, comme la crue du Nil dans l'Antiquité égyptienne, ou soudaine et dévastatrice. Les raisons qui accroissent les risques d'inondation sont bien connues. Elles peuvent être naturelles, comme les pluies diluviennes des moussons en Asie du Sud-Est. Elles peuvent également provenir des sociétés humaines, avec la multiplication des constructions en zones inondables, en raison de l'accroissement de la pression démographique.
Le saviez-vous ? Que d'eau, que d'eau. En janvier 1910, Paris connaît une crue centennale de la Seine, celle qui ne se produit qu'une fois par siècle. Après des pluies très abondantes à la fin de novembre 1909, de nouvelles précipitations, dans les 15 derniers jours de décembre 1909, gonflent Lyon, le Loir, la Marne. La situation, qui n'est pas encore catastrophique, le devient avec un nouvel épisode pluvieux intense vers le 20 janvier. La Seine envahit Paris et monte le 28 janvier à son maximum, à 8,62 m. Le fameux zouave du pont de l'Alma a de l'eau jusqu'aux épaules et menace de se noyer. La voie ferrée Austerlitz-Orsay est totalement envahie par les eaux, qui occupent un tunnel en construction du métro pour ressortir à la gare Saint-Lazare. Les Parisiens sont privés d'électricité, de gaz, de téléphone, d'eau potable et de chauffage. Les transports en commun, tramway, train, métro, ne circulent absolument plus. Seuls les autobus tirés par des chevaux parviennent encore à se déplacer.